Salut à toi, jeune femme, jeune fille, précoce, tardive ou en transition. Mère, grand-mère ou nullipâtre, vieille sorcière, guerrière, infirmière, lesbienne, bisexuelle et hétéra, salut à toi.
La mince, la grosse, la mystique, l'anarchiste, la valide, l'handicapée, toi qui sais que ton corps est plein de super pouvoirs, salut à toi.
Avec toutes les nuances de ta peau, de tes origines sociales, familiales, culturelles, avec toutes les nuances de tes idées, salut à toi.
On t'a fait du thé. Bien. Les violettes sont sur les ondes. On va parler féminisme intersectionnel.
Bonjour, bonjour. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre du podcast Les violettes sont sur les ondes. Et aujourd'hui, on va parler de notre rapport à l'argent. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagnée par trois super co-animatrices. Bonjour Michaela.
Bonjour Lise. Bonjour tout le monde.
Bonjour Tanita.
Salut à tous et à toutes.
Salut Agathe.
Hello, hello.
Alors, dans ce premier épisode de notre super podcast audacieux et ambitieux autour des relations entre femmes et argent, on va aborder plusieurs points, notamment, on va commencer par un petit tour de table sur notre rapport à l'argent de façon générale, parce que ça permet de comprendre un petit peu d'où on parle. Et puis, en fait, la majeure partie de ce podcast, on a choisi de faire une espèce de très longue introduction sur un cadrage un peu historique pour comprendre un petit peu finalement d'où venaient les rapports entre femmes et argent, comment est-ce qu'ils avaient été construits, par qui est-ce qu'ils avaient été construits et surtout ce que l'on en faisait. C'est-à-dire qu'on va aborder le monde merveilleux du capitalisme patriarcal, par exemple. Mais rassurez-vous, on aura quelques petits éléments un peu stimulants et des portes ouvertes vers des possibles. On parlera également du rapport entre travail productif et travail reproductif. Et puis, on finira, pour bien finir, par réfléchir à la façon dont les femmes sont exploitées spécifiquement par le capitalisme. Donc, un beau programme assez dense avec plein d'échos, de lectures, de textes, d'ouvrages, mais aussi des chiffres, notamment grâce à Agathe qui a bien fait son travail de collecte de données et de chiffres. Et puis, quelques petites capsules enregistrées auprès de Chérifa qui nous fait part de son expérience personnelle à l'argent. Une belle émission à venir donc. Alors, le blé, le fric, l'oseille, le cash, le flouze, le pognon, les pépettes, la thune, bref, l'argent, c'est quoi notre rapport à tout ça? Alors, qu'est-ce qu'en pensent d'autres femmes sur le sujet? Alors, attention, on va faire un petit moment un peu sexiste où on est allé piocher délicatement quelques belles expressions et citations qui permettent de voir qu'on part vraiment de très, très, très loin.
Ouais, des vraies pépites.
Tu veux commencer, Agathe?
Allez, j'ai l'honneur. S'il fallait que les femmes s'occupent d'où vient l'argent qu'elles dépensent, les bijoutiers pourraient plier boutique. Merci Michel Audiard.
Ensuite, on a « Les hommes sont faits pour avoir de l'argent, pas les femmes. Les femmes sont faites pour en demander. » Nadine de Rothschild, une petite pépite aussi.
Ah, merci Nadine, tu sais toujours trouver le mot qu'il faut pour chaque occasion et chaque circonstance.
La troisième pépite. Les femmes, ah les femmes, elles sont comme l'argent, on aimerait pouvoir les jeter par fenêtre. Et cette magnifique expression a été dite par Bonnie de Castellane.
Ensuite, un petit proverbe allemand pour continuer. On attrape les lièvres avec des chiens, les femmes avec de l'argent et les sots avec des louanges.
L'argent et les femmes, les deux raisons pour lesquelles on fait le plus d'erreurs dans la vie. Et ça, c'était dans le film Slumdog Millionaire. Qui n'est pas sorti il y a si longtemps.
Alors, pour passer un petit peu à autre chose, pendant cette émission, on a quand même pas mal bossé pour vous, franchement. Hein, on a été assez actives et notamment, on vous a concocté des petits enregistrements. On a fait des entretiens avec des chouettes femmes, justement, qui nous parlent un petit peu de leur rapport à l'argent. Et moi, je voulais vous proposer une toute petite capsule. Attention, c'est très court, mais c'est très efficace. J'ai eu le bonheur d'échanger avec... une femme absolument géniale qui s'appelle Chérifa, qui est aussi une amie. Et pour commencer, je vous propose d'écouter cette micro-capsule très, très courte.
Les femmes, elles vont mettre en avant d'abord, il faut d'abord être heureux. Enfin, tu vois, c'est pas l'argent qui va faire que. Mais ça n'empêche que, du coup, les femmes, elles en chient.
Et ouais, les femmes, elles en chient du coup. Et justement, chérie femme disait, bah ouais, c'est important d'y réfléchir. Moi, je suis contente qu'on discute de ça ensemble. On a fait un entretien d'une heure et demie, on en a beaucoup parlé et je suis sûre qu'on en reparlera. Et du coup, pour vous, moi, j'aimerais bien qu'on commence cette émission et que vous me racontiez un petit peu quel est votre rapport à l'argent. Alors, très souvent, on se rend compte que ça vient éventuellement un petit peu du contexte familial dans lequel on a pu grandir. Peut-être Tanita, tu peux commencer à nous raconter un petit peu.
Alors moi, je le vis de manière plutôt chill. J'ai été éduquée par mon père, donc avec un homme. Mais j'ai du coup pas eu le modèle genré de l'argent parce qu'on était tous les deux et du coup ma devise c'est un peu quand il y en a c'est trop cool, dépense-le et puis quand il y en a pas on fait avec. Donc, j'économise pas trop et je dépense, mais s'il n'y a pas d'argent, je suis pas frustrée non plus et j'arrive à vivre sans trop d'argent non plus. Et je pense que le fait que je sois une femme, pour le coup, ça rentre pas vraiment dans cette considération. Et ça, je pense que c'est lié à mon éducation qui a un rapport totalement non genré à l'argent parce que j'étais seule avec mon père et que même du côté de ma mère, mon grand-père est décédé très tôt, donc c'est ma grand-mère qui gérait les comptes et puis c'est un peu un non-lieu, quoi.
Ok, merci Tanita. Agathe, est-ce que tu veux nous faire un petit retour? Est-ce que tu as pris le temps d'y réfléchir un peu?
Ouais, carrément. Et même, je me souviens, quand on préparait l'émission, je sais que c'était le cas de Lise et de moi aussi, et peut-être de tout le monde, on s'est dit, mais oh là là, femme argent, je suis pas trop calée. Et en fait, finalement, en se penchant sur le sujet, on avait plein de choses à dire. Donc déjà, je voulais préciser ça au début. Et moi, personnellement, je pense pas non plus avoir une vision genrée de l'argent. Donc mes parents sont agriculteurs et agricultrices. Les inégalités de salaire entre femmes et hommes, du coup, c'est pas quelque chose que j'ai vu parce qu'ils avaient un salaire à deux qu'ils se partageaient. Et puis de toute façon, quand on est petit, je pense que ça nous dépasse, donc je l'aurais pas vu. Mais au niveau de l'éducation, je pense qu'ils ont inculqué les mêmes valeurs à ma sœur, mon frère et moi. Ils nous ont parlé d'argent de la même façon. Pour moi, j'ai vraiment pas vu de différence. Et pour le coup, j'ai la chance qu'ils puissent subvenir à mes besoins, ça c'est clair. Pour le logement, mes études, manger. Je sais que je peux compter sur eux. Et ouais, j'ai vraiment grandi en sachant qu'ils pourraient m'aider financièrement. Donc ça, c'était quand même un niveau charge mentale. C'était un soulagement qui est carrément à prendre en compte. Je suis chanceuse et hyper reconnaissante pour ça. Et sinon, mon argent, qu'est-ce que j'en fais et quel rapport j'ai avec lui? J'essaie de lui donner du sens. J'essaie de rémunérer des entreprises ou des personnes dont les actions me tiennent à cœur. Mais voilà, ça dépend des fins de mois aussi, c'est clair. Mais petit à petit, j'ai quand même compris que ça pouvait être politique d'utiliser son argent. Et ça, j'essaie d'être en accord avec mes valeurs et de l'utiliser à bon escient, quoi.
Bah oui, c'est hyper politique la façon dont on utilise notre argent. Ça, c'est clair. On va en reparler un peu après. Moi, je suis un peu comme toi, Agathe. J'ai eu la chance de grandir dans une famille, plutôt de classe moyenne, on pourrait dire ça comme ça, parce que j'ai des parents qui occupaient des postes équivalents fonctionnaires. C'est pas tout à fait ça, mais presque. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas souvenir, en tout cas, d'avoir été préoccupée par ça, contrairement à des potes qui pouvaient m'en parler quand j'étais petite. Et la gestion de l'argent, du budget, des courses, tout ça, ça me semblait assez simple et assez fluide entre deux. Tous les deux, mes parents viennent d'un milieu plutôt modeste et rural, voire même
franchement précaire du côté de ma mère. Et en fait, c'était les premiers à faire des études dans leur famille. Donc, il y a aussi un rapport un peu particulier avec ça. Et avec le recul, je me rends compte que malgré tout, il y avait quand même un espèce de rapport un peu genré dans la façon dont ils se répartissaient les tâches liées à l'argent. Parce que, bah, par exemple, typiquement, c'est mon père qui s'occupait de la déclaration d'impôt. Et que, pour la petite anecdote, ma mère n'a jamais eu et n'a toujours pas de carte bancaire parce qu'elle refuse d'avoir une carte bancaire. Elle a toujours détesté le rapport en fait que ça induisait à l'argent. C'était pas quelque chose de concret pour elle. Et du coup, bah, je l'ai toujours vu tout le temps payer en liquide. Donc pour moi, l'argent, c'était des billets, des pièces. C'était ça en fait. Il y avait un truc très très concret. Ce qui l'a mis pas mal de fois dans la merde d'ailleurs, avec des grosses pannes d'essence en bord de route où elle pouvait pas se démerder, par exemple. Et puis surtout, j'ai le souvenir hyper marquant d'un événement, comme il y en a beaucoup, hein, le jour où ma mère découvre que un de ses comptes en banque ne lui appartient plus. C'est-à-dire que c'était censé être un compte commun qu'elle partageait avec mon père. Et puis là, interdiction de prélèvement, de mouvement sur son compte, et elle se rend compte que le compte est passé automatiquement au nom de mon père seul, alors qu'en fait c'était le compte sur lequel son salaire était viré, c'était le compte qu'elle était la seule à utiliser, et que la banque ne l'a même pas prévenue par une petite lettre ou un petit courrier, ils l'ont fait automatiquement. Donc je me souviens la voir partir en furie pour gueuler sur les banquiers en leur disant que c'était scandaleux, et puis elle en a souvent reparlé par la suite, et ça a été un peu une mise en garde aussi de façon générale, cet état de rage maternelle quant au fait qu'il fallait, moi, que je sois assez vite indépendante, non pas tant de mes parents, mais en tout cas indépendante de quelqu'un. C'est-à-dire que je puisse m'assumer et être sûre que dans la vie, plus tard, il fallait que je puisse me nourrir, me loger, sans avoir à dépendre de quelqu'un d'autre. Et du coup, ça a aussi un peu forgé la façon dont le rapport à l'argent s'est mis en place dans les rapports amoureux que j'ai pu avoir avec différents compagnons, notamment par le passé, parce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de mal à me faire inviter quand c'est dans le cadre d'un rapport amoureux, notamment, voire même des situations complètement débiles où je bataille pour absolument inviter un coup d'un soir, hein, clairement, et notamment des gros connards de merde, donc ça n'avait aucun sens, mais il y avait ce rapport un peu particulier du fait que je m'assume, donc je préfère payer pour toi que l'inverse, quoi. Et du coup, ça a créé un truc un peu bizarre par rapport à ça, mais finalement, j'ai un rapport, je pense, assez simple avec l'argent grâce à mes parents, parce que comme eux venaient de milieux modestes, c'est vrai qu'on a, ma sœur et moi, toujours travaillé très très tôt, en fait, dans le cadre de nos études. Moi, j'ai commencé à bosser à 16-17 ans, dès que c'était possible, avec des boulots divers et variés, que ce soit à la chaîne, que ce soit aide à domicile, que ce soit les vendanges, que ce soit les marchés. Enfin, j'ai fait un milliard de trucs différents. Et en fait, la chance qu'on a eue, ma sœur et moi, c'est qu'on savait que mes parents pouvaient nous accompagner, un peu comme ce que disait Agathe, si on en avait besoin. Et que cet argent-là, c'était un effort que nous, on faisait. Ce travail-là, ça avait du sens parce que c'était plus dans une relation éthique à l'argent, au travail, et que c'était aussi s'inscrire dans la société. C'était pas uniquement parce qu'on avait besoin de manger. Donc, c'est quand même pas du tout le même rapport que quand on est obligé de bosser dans le cadre de ses études, parce que sinon, on mange pas, quoi. Donc, ça a créé, je pense, chez ma sœur et moi, un respect aussi pour la façon dont nos parents pouvaient gérer l'argent, et puis finalement une espèce de précaution générale, quoi. Un détachement, une distance, enfin quelque chose de assez simple. Et toi, Michaela, raconte-nous tout.
Je vous raconte tout. Moi, en fait, mes parents, ce qu'ils m'ont appris très très justement, je pense, par rapport à l'argent, c'est de consommer moins mais mieux, et c'est ce que je suis en train de suivre aussi jusqu'à présent. Et ça, dans tous les domaines, que ce soit les vêtements, la nourriture, que ce soit les sorties, dans l'idée, c'était toujours de faire les bons choix. Mais sans forcément non plus oublier le côté, un petit côté plaisir, quand on a envie de se faire plaisir, mais on fait en fonction des moyens qu'on a à ce moment-là. Et par rapport à une certaine vision genrée de gestion de l'argent, je sais pas, certainement qu'il y en a eu, mais j'ai pas ce souvenir en grandissant, parce que en plus j'ai grandi à une époque assez particulière après la chute de l'URSS, où tout le monde était obligé de travailler. Il y avait pas, c'était pas on pouvait pas se dire ok, il y a que une seule personne du domicile qui travaille. Donc, en fait, j'ai toujours vu les femmes de mon entourage travailler, même mes grand-mères. Là, on parle plus de la période post-URSS, mais même avant, même mes grand-mères ont travaillé aussi. Et c'était, je sais pas, c'était dans une optique que tout le monde participe en quelque sorte au bien-être de la famille, ou c'était quelque chose de normal. Je sais même pas si ça a été, j'avais une conscience féministe derrière ça, certainement que non à cette époque-là, mais c'était pas dans une revendication féministe, c'était juste parce que voilà, c'était normal de travailler. Moi aussi, j'ai commencé à travailler assez tôt, et comme Lise, j'ai eu de la chance aussi de ne pas travailler par besoin, mais surtout par c'était une chance, parce que en plus j'ai travaillé dans une asso, donc c'était quelque chose de très très sympa à faire. Et je savais aussi que mes parents pouvaient m'aider par la suite. Quand je suis partie faire mes études, j'ai continué à travailler, mais je savais qu'ils pouvaient m'aider. Donc, j'ai jamais vraiment connu la grosse précarité ou le questionnement à la fin du mois. Si j'ai pas travaillé, je vais pas pouvoir manger ou des choses comme ça. Donc, c'était une grosse chance, parce que forcément, pendant les études, ça te permet une autre liberté de réfléchir à d'autres choses et ne pas être dans cette urgence-là à pallier à des besoins primaires comme se nourrir ou se loger. Et donc, j'ai continué à travailler pendant mes études. Et pendant mes études, j'ai eu de la chance aussi de me rendre compte que j'ai pas envie d'avoir un travail que pour l'argent, parce que j'ai eu un travail qui était extrêmement chiant, où je faisais des stats de marketing à longueur de journée. C'était très bien payé, j'étais très contente. Mais je me disais, mais qu'est-ce que je fais si je vais continuer à faire ça toute ma vie? Ça va pas être possible. Donc ça, c'était une sorte de prise de conscience, en me disant que, en plus, l'argent, c'est pas une valeur. Je vais pas aller dans un boulot que pour l'argent, parce que c'est bien payé, si ça ne m'apporte aussi quelque chose derrière ça. Et maintenant, je sais pas, le rapport à l'argent, je suis contente et je suis aussi reconnaissante à mes parents que j'ai pas vécu ces moments de précarité. Maintenant, je suis contente d'en avoir assez pour bien vivre, de ne pas les compter à la fin du mois. Mais ça reste toujours pareil. C'est pas une valeur. Je ne regarde pas les personnes avec qui j'ai des relations par le prisme de l'argent, combien ils gagnent. J'ai fait depuis aussi quelques temps, et on va peut-être en parler plus tard, j'ai fait le choix aussi de gagner moins, mais de faire un peu des choses qui me plaisent plus. Et je suis toujours dans l'optique de consommer moins mais mieux. Donc dans mes choix, j'essaie de faire ça, et un peu comme Agathe, de soutenir aussi, je participe à beaucoup de campagnes de financement des projets qui me plaisent. Le dernier en date, c'était le jeu Moi c'est Madame, qui est un jeu de société féministe.
C'est quoi? Vas-y, raconte, c'est quoi?
Il faudrait que je me rappelle exactement. Ces deux podcasteuses qui ont créé ça, elles ont le podcast Yes, je crois. C'est les créatrices du podcast Yes à Marseille qui ont créé un jeu féministe qui s'appelle Moi c'est Madame, et qui là a priori est fini. Je vais le recevoir très prochainement, je sais pas quand, mais hey, je vais vous donner des nouvelles, et je vais jouer peut-être à Noël avec. Mais en gros, c'est un jeu un peu sur le modèle des jeux de société, mais avec des répliques féministes ou antisexistes, et voilà. Donc j'ai hâte de le recevoir, et j'ai participé du coup à la campagne de crowdfunding de ce jeu, et j'essaie dès que je peux de participer à ce type de campagne. Je disais à un collègue que moi je suis une sorte de business angel, mais très petit parce que j'essaie de financer de très petits projets.
Merci Mihaïla, mais même les très petits projets, c'est important, hein, que ce soit les petits projets de financement ou même les caisses de grève avec des toutes petites contributions, bah en fait ça fait quand même la différence. Donc ouais, c'est aussi important malgré tout. On s'était dit que pour commencer cette réflexion sur l'argent, parce que attention, c'est vrai, on vous a pas prévenu, mais ça risque de durer un petit peu longtemps parce qu'on s'est vu que c'était un peu un vortex qu'on a mis le doigt dedans alors qu'on était un peu, comme le disait Agathe, en disant qu'est-ce qu'on va raconter? Est-ce qu'on a vraiment envie de réfléchir à cette question, etc. Bah en fait, il y a pas mal de choses à en dire. Donc ça risque d'être plutôt un épisode en deux parties, en deux épisodes. Mais on s'est dit que pour commencer, ce serait bien de faire un petit cadrage historique, un petit point comme ça avec quelques chiffres, quelques dates, pardon, qui nous permettent de revenir un petit peu sur les origines de ce rapport à l'argent. Et pour commencer ce rapport historique, moi, je vous propose une autre petite capsule justement de mon amie Chérifa qui nous parle d'un petit rapport à la grève, justement, on vient d'en parler, et aussi à savoir qui gère le budget dans la famille.
Il y a des nanas qui ne font jamais, elles ne font jamais grève parce qu'elles n'ont pas l'autorisation de leur mec. Et quand je leur dis, mais enfin, vous travaillez, c'est votre salaire. Non, c'est le mec qui gère le budget. Si moi, je compare ma mère qui ne sait pas lire et écrire, moi, j'ai grandi dans un foyer où c'est la mère qui gère l'argent. Ma mère a toujours géré les courses, l'argent. Jusqu'à maintenant, il a besoin d'argent, elle lui donne.
Donc, Chérifa, effectivement, parlait du rapport entre sa maman et son papa. Et le fait que c'est sa mère qui gère, quoi. C'est sa mère qui a l'argent, c'est sa mère qui deal les choses. Et elle me disait que c'était un petit peu la même chose aussi dans la génération suivante entre ses frères et sœurs. C'est plutôt les filles qui géraient l'argent aussi. Alors, pour un tout petit point historique, j'ai récemment entendu l'historienne Michèle Perrault, qui est une super, super historienne du 19e siècle, qui parle d'histoire des femmes et d'histoire aussi ouvrière. Et dans un petit podcast qui vient de paraître, justement, qui s'appelle « Rends l'argent », qui est sur les rapports d'argent dans le couple, elle explique qu'en général, c'est assez fréquent que dans les familles populaires, ce sont plutôt les femmes qui gèrent l'argent. Et ça, depuis longtemps, notamment depuis le 19e siècle. Et que, à l'inverse, plus on monte dans les classes sociales, plus ce sont les hommes qui gèrent l'argent, et notamment quand il y a du patrimoine, quand il y a du capital, ce sont les hommes qui gèrent l'argent. Voilà.
Donc, on
goûtait un petit peu, voilà, pas de grosse surprise, mais c'est bien de le rappeler malgré tout, quoi. Agathe, tu avais préparé quelques petits chiffres, quelques petits éléments. Est-ce que tu veux nous faire un petit point un peu technico-historique sur justement ce rapport historique à l'argent ou ce cadrage un peu pour qu'on sache de quoi on parle?
Ouais, déjà, du coup, on va parler un peu chiffres. Pour se rendre compte que les femmes se sont appropriées l'argent, ont pu surtout, on leur a donné le droit de s'approprier de leur argent, très tard en fait. Parce que ce n'est qu'en 1965 que les femmes mariées ont pu ouvrir un compte en banque. Donc déjà, il fallait être mariée, bon, ok, ça pose les bases. Et aujourd'hui, donc là je vous parle d'une étude réalisée dans plusieurs pays, 17 pour être précise. Une étude qui a été réalisée donc via un questionnaire auquel 800 femmes ont répondu. Donc c'est à prendre en compte parce que 800 femmes, c'est quand même pas beaucoup. Mais donc cette étude, elle dit que 90% des femmes connaissent le montant exact de leurs impôts. Les femmes sont également les comptables du foyer. 60% d'entre elles gèrent les comptes avec leur conjoint. Et 34% s'occupent des finances domestiques seules. Au niveau professionnel, 66% d'entre elles ne demandent pas d'augmentation à leurs employeurs. Alors que 65% des femmes préparent activement leur entretien annuel et qu'en plus, 73% d'entre elles vont même jusqu'à anticiper les objections de leurs employeurs. Donc on voit bien que c'est une question qui est importante pour elles, mais qu'au final, il y a 66% des femmes qui ne vont pas oser demander, soit parce qu'elles savent que ça ne va pas marcher ou qu'elles n'osent pas ou de toute façon qu'elles comprennent bien qu'elles ne peuvent pas. Donc voilà, donc ça c'est pour poser un petit cadre avec quelques chiffres. Je ne sais pas si vous en avez d'autres en tête.
Non, mais c'est vrai que sur cette demande d'augmentation ou négociation de salaire, en tout cas, on voit que c'est particulièrement présent dans le privé, mais c'est la même chose dans le public et de façon contre-intuitive, on en avait discuté ensemble. Hein, on a l'impression que dans le secteur public, a priori, tout se passe bien parce que les salaires sont mis en place avec des espèces de grades qui fait que bah, si on a tant d'années d'ancienneté, on est payé pareil. Mais en fait, on se rend compte que les écarts salariaux sont encore plus importants dans le public que dans le privé. C'est-à-dire qu'en gros, bah, par exemple, dans le secteur hospitalier, dans l'éducation nationale, dans les services, par exemple, je pense, je sais pas moi, à la CAF, ou même dans la police, bah, les femmes sont payées moins que les hommes. Comment est-ce que ça se fait? Bah, tout simplement parce que justement, elles demandent pas de l'avancement. Donc, ça se passe pas pareil que dans le privé, c'est-à-dire que c'est pas, on va pas demander à son employeur d'être augmenté, mais c'est un espèce de formulaire administratif qui fait qu'on va demander son avancement. Surprise ou non, les hommes le font systématiquement, demandent les avancements et les ont à chaque fois, et les femmes n'osent pas demander ces avancements.
Magnifique. Ben pour rebondir sur ces petits chiffres, on peut parler aussi d'un petit cadrage historique, donc plus des dates, mais c'est tout aussi parlant. Je vais me baser sur un ouvrage qui est pour moi en tout cas pionnier dans cette analyse-là, en tout cas dans une analyse intersectionnelle de ce rapport à l'argent-là, c'est « Femmes, race, classe » de Angela Davis, et qu'elle a écrit en 1981, et puis il a été réédité à de nombreuses reprises. La dernière édition, en tout cas celle sur laquelle je me suis basée, elle date de 2018. Et en fait, elle retrace un peu les origines de ce triptyque entre la race, le genre et la classe sociale. Et en fait, c'est ce qui fonde la légitimité même du capitalisme. Et elle explique qu'en fait, à l'esclavage, il n'y avait pas de répartition, en tout cas pour les hommes et femmes noirs, de répartition genrée du travail. C'était une force de travail, un point, c'est tout, parce que c'était gratuit et que du coup, ben, les femmes, les hommes travaillaient le même nombre d'heures au champ et avec une déshumanisation totale, en fait, qui faisait que le travail n'était absolument pas genré. Et en fait, à la fin de l'esclavage au 19e siècle, on a eu un glissement du travail du corps noir qui est devenu totalement genré. Et en fait, c'est que lorsqu'on libère les noirs, et notamment les femmes noires du travail forcé, ben, il faut que la femme noire, on va quand même pas la rémunérer au même titre que l'homme. Donc, il faut bien qu'on trouve des professions un peu sous-payées. En fait, on va la mettre aux tâches ménagères, notamment pour que les femmes blanches, elles, puissent s'élever socialement et aller travailler sur des tâches, on va dire, plus nobles. Et la femme noire va s'occuper des enfants, etc., à la maison, et va s'occuper du foyer. Donc, en fait, on a vraiment ce rapport-là qui veut dire qu'en fait, dès qu'on a libéré, entre guillemets, les hommes et les femmes noires, le capitalisme a voulu empêcher les femmes d'accéder à cet argent-là parce que les femmes ne doivent pas, en fait, finalement, posséder de l'argent. On voit que c'est vraiment dans cette idée à l'aube du capitalisme. Et en plus de ça, elles doivent être inférieures à la femme blanche, bien entendu, mais ça, c'est une autre question. Mais on voit que la question de l'argent, en tout cas, il y a vraiment que dans l'histoire, en tout cas, la femme, elle peut pas être considérée au même titre que l'homme quand il y a du financier, alors qu'elle peut totalement quand c'est du travail gratuit. Et c'est donc bien la preuve de la logique qu'il y a derrière.
Ouais, merci Tanita, c'est vraiment passionnant et merci aussi de parler de Angela Davis, on est toujours hyper contents. Alors peut-être tu peux dire deux mots un petit peu de qui elle est, parce que je me dis il y a peut-être des personnes qui n'ont pas encore découvert Angela Davis, donc on est ravis si vous la connaissez pas encore parce que ça vous laisse plein de super trucs à découvrir, mais juste en dire deux petits mots un petit peu qui c'était pour ceux et celles qui la connaîtraient pas encore et qui la découvriraient avec toi.
Alors très bien, donc Angela Davis maintenant, elle est professeure, elle est aux États-Unis, elle fait aussi des masterclass à la Sorbonne et dans les plus grandes universités du monde. Donc c'est une activiste afroféministe, c'est une des pionnières vraiment de l'afroféminisme contemporain. Et donc elle a été dans le mouvement Black Panther, donc dans les années 60, dans le mouvement des droits civiques. Donc c'est une marxiste, enfin à l'époque en tout cas, elle s'inscrivait vraiment dans le mouvement marxiste anticapitaliste et féministe, et elle a voulu vraiment introduire la parole des femmes et des femmes noires dans le mouvement des Black Panthers qui était au départ très masculin. Et donc elle a un peu féminisé ce mouvement-là, elle a pris la parole, c'est une des plus grosses figures du mouvement, femmes et hommes compris. Et donc, elle a fait de la prison, bien entendu, comme tous les grandes personnes de ce mouvement. Et voilà, elle a milité. Et puis ensuite, elle continue à militer aujourd'hui aux États-Unis et ailleurs pour les droits des femmes noires. Et puis, elle s'intéresse aujourd'hui énormément aux questions d'intersectionnalité, comme son livre peut le montrer. Ensuite, elle est vraiment allée dans l'intellectualisation de sa lutte. Mais au départ, c'est vraiment une femme de terrain. C'est une très grande activiste que je remercie profondément. Voilà.
Je crois qu'on la remercie toutes, hein, franchement. Et puis, si vous êtes un peu effrayée de vous plonger dans ses écrits, c'est quelqu'un qu'on a la chance de pouvoir écouter régulièrement. Elle a fait pas mal d'interviews, d'émissions. Et notamment, elle parle hyper bien français et elle a une voix absolument merveilleuse. Donc, c'est toujours un plaisir inouï de l'entendre justement parler de féminisme, d'anticapitalisme et aussi d'abolitionnisme carcéral, parce qu'elle est aussi, oui, elle milite aussi pour l'abolition des prisons. Et vraiment, c'est une pensée qui est éclairante et assez merveilleuse. Donc, merci Tanita de nous avoir redonné un petit peu de force grâce à Angela Davis, parce que là, depuis le début de l'émission, c'était quand même un peu sec, quoi. On n'avait pas beaucoup de force et pas beaucoup d'espoir, quoi. Donc, ça fait un peu du bien, quoi, franchement. Alors, on pensait un peu enchaîner justement sur ce cadrage un peu historique avec cette idée du capitalisme patriarcal. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que l'argent est lié au patriarcat dans la société occidentale, en tout cas? Et pourquoi, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui s'est un peu mis en place depuis très longtemps, notamment sur les questions du contrôle des femmes et des corps des femmes, comme tu l'as dit, Tanita, en parlant en particulier des femmes racisées, hein, pour qui ce contrôle s'exerce encore plus, mais aussi de quelle façon le capitalisme a tendance en général à soutenir le patriarcat et comment, en fait, c'est une pensée, un rapport à l'argent et au monde qui brise la sororité en se basant typiquement sur la lutte des classes, sur la lutte des races et justement sur l'instauration de rapports de hiérarchie. C'est ce que tu disais, Tanita, tout à l'heure, hein. Forcément, il y a toujours les plus précaires des plus précaires et les plus exclus des plus exclus qui sont bien enfermés dans leur statut. Donc, on voulait revenir un petit peu là-dessus. Et justement, Michaela a réfléchi, elle a creusé, elle a lu pour nous parce qu'elle est super, elle est géniale. Et notamment, toi, tu t'es penchée sur plusieurs ouvrages, dont l'ouvrage d'Hélène Périvier qui s'appelle « L'économie féministe ». Tu peux nous en parler un peu parce que je ne sais pas pourquoi, mais économie féministe, il y a un truc qui sonne un peu bizarre à l'oreille, quoi. Donc,
Oui, complètement. Alors, donc j'ai découvert ce livre, c'était complètement par hasard et c'était avant qu'on prépare ce podcast. Et je l'ai découvert à la super librairie La Franchie à Lille. Donc, si vous passez, allez-y, achetez des livres là-bas. En plus, c'est ouvert maintenant.
Oui, on parlait de soutenir des initiatives locales portées par des femmes géniales qui font un vrai choix éthique aussi quant à leur positionnement. Donc
complètement. Soazic, qui en plus est aussi une féministe, et va vous conseiller tout ce qu'il vous faut dans ce rayon-là. Et donc, j'ai découvert ce livre et c'était un peu pareil comme toi, Alice. Je me suis dit, économie et féminisme, ça ne sonne pas pour moi. Ça ne va pas bien ensemble. Mais je me suis dit, ça peut être intéressant. Je ne connaissais pas du tout non plus Hélène Périvier. Donc, je l'ai acheté aussi dans le but. J'étais presque sûre que à La Franchie, c'est un bon ouvrage. C'est pas, presque sûre de ne pas me louper. Et donc, ça m'a ouvert les yeux sur plein de sujets différents et c'était extrêmement intéressant parce que déjà, Hélène Périvier commence par expliquer que les concepts de l'économie ne sont pas neutres. En fait, les concepts de l'économie ont été créés par les hommes pour une société qui est dirigée par des hommes et qui potentiellement va être plus profitable pour les hommes. Donc, voilà, surprise, surprise. Et pour elle, en tout cas, elle se dit économiste féministe. Et pour elle, il est très important justement de faire de l'économie une science des luttes pour l'égalité des genres et ne pas juste comme ça exclure ces sujets-là. Et donc, pourquoi ça a été comme ça? Parce que tout simplement, les personnes qui étaient économistes au 18e, 19e, même avant, étaient des hommes et que eux, ils ont pensé par des biais cognitifs qu'ils avaient à l'époque, ils ont pensé ces sujets et ils ont proposé des outils, mais avec ces biais cognitifs. Donc forcément, ils ne pensaient pas le travail des femmes, le travail encore des esclaves, ou en tout cas, pour eux, c'était quelque chose qui était normal dans l'ordre de choses, que ça soit comme ça.
Pardon, Michaela, je te coupe, mais tu nous expliques un peu ce que c'est qu'un biais cognitif, parce que c'est quand même un peu un mot sauvage. Donc, il y a peut-être des gens, ils disent « Ouais, bah, elle est sympa, mais en fait, moi, biais cognitif, je ne sais pas ce que ça veut dire. »
Alors, un biais cognitif, en fait, je vais parler de point de vue d'un chercheur, d'une chercheuse ou d'un économiste dans ce point de vue-là, c'est qu'on se base sur ses croyances, souvent sur ce qu'on croit, nous, qui est vrai, sans forcément passer par la science ou par expliquer ça ou avec un processus scientifique. Donc, si on prend ce sujet-là en particulier, on s'est dit, OK, les femmes sont à la maison, elles travaillent pas, les hommes sont, eux, ils travaillent. Donc, on réfléchit à des sujets de l'économie à travers ce biais-là. On se pose pas, on sort pas de ce que nous, on pense que c'est juste ou on pense que c'est dans l'ordre des choses ou que ça peut être différemment. Tout simplement.
Ouais, en fait, le point de départ, il est complètement biaisé, quoi. On part d'un principe en disant c'est la vérité, mais on remet pas du tout en question le point de départ. C'est un peu
ça. Exactement. C'est exactement ça. Et c'est par exemple un autre sujet, ça peut être l'anthropologie ou d'autres sciences où des chercheurs du 18e, 19e siècle ont mis des présupposés sur les peuples préhistoriques. En disant que dans la préhistoire, c'était exactement comme au 18e, 19e, il y avait une famille. On n'est pas sorti de nos croyances qu'on pense des vérités alors que ça ne l'est pas. Et en fait, on trace ce chemin sans se poser la question que déjà l'évolution n'est pas linéaire, déjà que tous les peuples ne se ressemblent pas, qu'il y a plein de vérités différentes, qu'il y a plein aussi de réalités qui ont coexisté, existé, sont disparues, ainsi de suite. Donc en gros, on se dit que si ce que je vis maintenant, ça, c'est ma vérité, je le transpose et je le extrapole même sur mon champ d'études et je décrète qu'un peu c'est la vérité qui existe. Voilà, donc c'est j'espère que j'ai bien expliqué.
Ouais, en gros, c'est des raccourcis que font une certaine catégorie de la population qui n'est pas représentative et ils basent la société de tout le monde avec leurs croyances, en fait.
C'est ça. Et c'est très grave quand c'est un chercheur, parce que toi, si t'as à ton niveau, tu penses que le monde est plate, je sais pas, grand bien te fasse. mais quand tu commences à écrire des livres, quand tu commences à publier, et ça, du coup, ça influence d'autres chercheurs, parce que c'est ce qui se passe maintenant. Les économistes de maintenant se basent sur des écrits des économistes de 19e, 18e, et du coup partent forcément aussi des biais qui ont eu ces personnes à l'époque. Donc, si on n'interroge pas différemment, en tout cas, l'économie, pardon.
Donc là, en fait, tu es en train de nous dire, Michaela, que en gros, chez les économistes, il n'y a pas grand-chose à sauver parce qu'ils avaient tous des biais cognitifs et ils étaient tous un peu pourris, quoi. C'est un peu ça.
Pas tous, peut-être. Déjà, il y a Hélène Périvier, parce que c'est une économiste et c'est une économiste féministe. Et en plus, elle, dans son livre, elle parle d'un autre économiste qui est assez connu, qui est John Stuart Mill. Et qui est influencé par sa femme, qui est une féministe philosophe et qui s'appelle Harriet Taylor. Il prône un peu l'égalité absolue entre les personnes, quelle que soit leur origine, leur sexe, leur race, si on veut, parce qu'à l'époque, on utilisait aussi ce terme. Et pour lui, en tout cas, dans l'idée, c'était que le libéralisme, c'était un libéral, et c'est le libéralisme qui va apporter cette égalité. Bon, peut-être qu'il se trompait sur ce point-là. À mon sens, il se trompait sur ce point-là. Mais en tout cas, il sortait du lot des économistes de l'époque, donc du 19e. Il faut savoir quand même que C'est beaucoup sa femme qui l'a influencé dans ses réflexions. Et il a admis à la fin de sa vie que sa femme était co-autrice de ses écrits. Et il ne l'a jamais dit pendant son vivant. Donc,
mais il l'a dit quand même.
Il l'a dit quand même à la fin de sa vie.
Par rapport aux piles de livres qui ont été écrits sans que jamais les femmes, les compagnes ne soient citées. Je me dis, on va pas se réjouir de ça, mais en tout cas, on connaît son nom à elle, on sait qu'elle a vraiment contribué à sa pensée et qu'en fait, elle a quasiment coécrit tous ses bouquins, quoi.
Exactement. Et donc, dans cette idée de que tout le monde, toutes les personnes sont égales, eux, ils ont travaillé aussi sur la question des... Ils ont relié plutôt la question du travail invisible des femmes avec celui des esclaves. Et attention, je dis pas du tout que c'est la même réalité, mais en tout cas, dans leur idée, c'est que ce travail, que ce soit le travail des femmes ou le travail des esclaves, profite à qui ? Aux hommes, au patriarcat et du coup au capitalisme. Donc le capitalisme patriarcal, même s'il ne l'appelait pas certainement comme ça à l'époque, mais en tout cas le capitalisme patriarcal se nourrit de ce travail gratuit et exploite plusieurs parties de la population pour arriver à ses fins. Donc je vous conseille vivement ce livre qui est extrêmement intéressant. Hélène Périvier critique aussi un peu la situation de la France, parce qu'elle revient un peu sur l'état social qui a été mis en place à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui a organisé le travail autour d'une famille, une famille nucléaire, une famille unie, le monsieur gagne-pain, comme elle l'appelle dans le livre, qui se marie et par le mariage, il transmet un peu à sa conjointe les droits sociaux, son salaire. En tout cas, la conjointe jouit aussi de ses droits sociaux. Et donc, à l'époque, et toujours maintenant d'ailleurs, on n'est toujours pas sorti de ce paradigme, on voyait la famille comme une unité un peu homogène et que les ressources se distribuent de manière égalitaire dans la famille. Or, c'est pas du tout le cas et on peut présenter plein d'exemples. Mais pour elle, maintenant, en tout cas, l'enjeu, c'est de penser l'individu, son autonomie et l'émancipation individuelle et que ces réflexions-là soient un peu transcrites dans les sciences économiques et dans les politiques publiques maintenant qu'on met en place. Et donc, elle, comme d'autres économistes féministes, pense aussi le travail domestique, le travail familial, le travail reproductif des femmes, en même temps que le travail salarié. En tout cas, ils sortent aussi de cette invisibilisation des femmes. Si elles sont pas dans un travail salarié, ça veut dire qu'elles ne produisent rien, qu'elles ne participent pas un peu à l'économie d'un pays, d'une société. D'après ce que j'ai compris, c'est plutôt une économiste de gauche. Après, maintenant, peut-être...
Mais c'est pas sûr.
Non, je le pense. Je le pense après. Ça serait intéressant de l'inviter et de voir qu'est-ce qu'elle en pense. Mais je pense que c'est plutôt déjà à réfléchir à toutes ces questions-là. On sort un peu de l'économie de droite ou voilà. Donc, à mon sens, c'est un super livre et je vous conseille vivement ce livre. Allez-y, achetez-le à La Franchie ou dans votre librairie de quartier. Lisez-le et vous en pensez quoi, les filles, de ce que je viens de dire?
Moi, ça me fait toujours un peu peur, un bouquin d'économie, si tu veux. Enfin, c'est pas ma came à la base. C'est pas le truc qui me fait mourir d'envie comme ça sur le papier. C'est accessible. Enfin, tu vois, les mots qu'elle utilise, les concepts qu'elle vient chercher, etc. Est-ce que si on n'a aucune base en économie, on s'en sort ou est-ce que c'est quand même un peu dur à lire?
Non, je dirais pas que c'est dur à lire. Il faut quand même un peu de concentration, mais c'est pas du tout un livre. Je sais pas comment expliquer. Moi, ça m'a pas posé de soucis. Forcément, ça se lit différemment qu'un roman où on peut un peu lire et rêvasser. Il faut être concentré sur ce qu'on lit, mais c'est absolument accessible à mon sens.
Bon, les filles, ça vous tente, c'est votre prochain achat livre ou alors on le pique à Michaela peut-être.
Bah, moi, j'ai fait beaucoup d'économies, donc je suis un peu familière avec les concepts qui sont d'ailleurs très capitalistiques en général et écrits par des hommes. Donc, pourquoi pas pour un peu changer, pour faire de l'économie un peu différemment et justement revoir un peu mes biais cognitifs en économie.
Ouais, moi, je trouve ça intéressant de un livre sur l'économie féministe, comme tu disais... tu peux te dire que c'est un peu improbable quand tu vois le bouquin. D'ailleurs, je l'avais vu aussi à la franchie, dans la vitrine. Et je trouve ça intéressant de spécialiser un peu par domaine dans le féminisme, parce qu'en fait, le capitalisme et le patriarcat, donc le capitalisme patriarcal, est partout et il est présent dans tous les domaines. Et il a construit, je pense, il est présent dans l'histoire des domaines, que ce soit l'économie, ça peut être aussi le sport. Et donc, je pense que c'est bien se spécialiser et d'avoir des infos précises sur les domaines. Donc, ouais, franchement, ça m'intéresse.
Ok, chouette. Je le prête.
Merci, Raëla. Et comme tu es quelqu'un de super investi, tu n'as pas lu que ce livre, tu es aussi allé fouiller parmi d'autres ouvrages et peut-être des ouvrages, des bouquins auxquels moi, typiquement, tu vois, j'aurais pas forcément pensé pour cette émission. Et notamment l'ouvrage d'une théoricienne qu'on rapproche plutôt des écrits liés à l'écoféminisme, qui s'appelle Françoise Daubonne. Et notamment, tu es allée refouiller dans écologie et féminisme. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quoi écologie et féminisme, c'est lié aussi aux questions d'argent, de capitalisme ?
Je pense que c'est tout simplement la position de Françoise Daubonne qu'elle exprime dans ce livre, où elle défend un féminisme anticapitaliste et antiprogressiste, parce qu'elle critique beaucoup le patriarcat, elle plaide pour une décroissance antiproductiviste. Pour elle, la croissance verte, ça n'existe pas. C'est un leurre aussi capitaliste qui veut nous faire croire qu'on peut continuer à consommer comme on le fait maintenant, mais dans une sorte d'éthique, en s'arrangeant plus ou moins un peu avec notre conscience. Donc, ces idées m'ont beaucoup plu. C'est pas un livre que j'ai lu pour le podcast, donc je me suis un peu replongée dans ses écrits et dans mes notes que j'avais prises à l'époque, parce que c'est pareil, c'est des concepts qui me passionnent. Et donc, en tout cas, selon elle, la naissance du patriarcat apparaît avec la mainmise des hommes sur les terres. Donc, c'est pour ça que le concept d'écoféminisme, il parle de l'appropriation des terres fertiles avec l'appropriation de la fécondité des femmes et le contrôle des corps des femmes. Et du moment où dans l'ère, je sais plus si c'est pré-industriel ou industriel, en tout cas, les hommes ont commencé à exploiter la terre comme bon leur semblait, ils ont commencé aussi à exploiter le corps des femmes. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le corps des femmes était le seul qui pouvait produire la force de travail future. Et donc, il fallait le contrôler pour que les femmes ne refusent pas de produire cette force de travail future qui allait servir par la suite à alimenter du coup les intérêts capitalistes. Et donc, c'est pour ça que c'était nécessaire de contrôler leur fécondité. Et donc, ce qui est étonnant aussi, ce qu'on retrouve aussi un peu dans ces réflexions, c'est un peu l'étrangeté de la condition des femmes dans le capitalisme patriarcal. C'est que la femme est vue comme quelqu'un de nécessaire, justement, par le fait qu'elle peut donner naissance à une force de travail, mais qu'on doit le subordonner. Donc, en gros, et c'est pour ça aussi qu'à certaines époques, il y avait des campagnes où on parlait de ce privilège d'être mère, où on mettait ça un peu en avant pour que on pense que c'est un droit divin, ou je sais pas comment le dire, mais en tout cas que les femmes ne se refusent pas à être maman et à faire un peu, comme je l'ai dit déjà, la force de travail future. Et donc voilà, c'est extrêmement intéressant. Moi, en tout cas, c'est complètement l'écoféministe dont elle parle, parce que c'est pareil comme dans le féminisme, il y a plusieurs mouvements, mais l'écoféministe dont parle Françoise Daubonne, c'est quelque chose d'anticapitaliste. Et moi, ça me parle forcément. Et donc, elle parle de d'éco-révolution, de la lutte des classes, de la fin des multinationales. C'est vraiment, on va retrouver plein de sujets qui nous intéressent maintenant. Il faut se dire que son livre a été écrit dans les années 70 et qu'il n'a pas eu du tout un écho important en France. Elle a été beaucoup plus connue à l'étranger. Et donc, c'est pour ça que dans les pays anglo-saxons, ces concepts ont été repris, alors qu'en France, ça n'a pas du tout, ça a fait... Je sais pas, il n'y a pas eu d'autres écrits jusqu'à récemment. Et la seule chose qui m'a questionnée, peut-être là vous pouvez rebondir, la seule chose qui m'a questionnée dans son livre, c'est qu'elle parle quand même de contrôler la, comment dire, le fait de faire des bébés. Et j'ai pas trouvé en lisant ce livre qui va contrôler ça. Parce que c'est pareil, on peut arriver dans des dérives. Est-ce que c'est les riches qui contrôlent? Je pense pas, si on lit tout son livre, mais en tout cas, pour elle, il faut aussi contrôler la surpopulation, parce que ça fait aussi un peu du mal à l'écologie. Mais j'ai pas trouvé cette réponse, donc si peut-être vous l'avez, je veux bien.
Malheureusement, je n'ai pas la réponse non plus, mais vu ce que tu nous exposes, je suppose qu'elle elle n'est pas en faveur d'un contrôle des naissances par un État totalitaire et financier qui contrôlerait ces naissances-là, mais non, je n'ai pas la réponse.
Oui, moi j'ai peut-être des petites pistes, mais en fait, tout à l'heure, je vais vous parler d'une autre penseuse qui a réfléchi justement sur les liens entre la société précapitaliste, l'exploitation justement des ressources dites naturelles et puis l'exploitation des forces de travail qui s'appelle Silvia Federici, mais je la garde pour plus tard, et où elle parle justement de cette question du contrôle des naissances aussi. Je pense qu'il y a vraiment des liens et des croisements très importants entre la pensée de Françoise Daubonne et puis ce que peut en dire Federici, parce qu'en fait, elles analysent le même point de départ toutes les deux, hein. C'est-à-dire le moment où le capitalisme est devenu une norme dans l'organisation de la société et dans l'organisation notamment des rapports à la possession, à l'argent, etc. Et où finalement, le contrôle des naissances a un lien avec le contrôle de la force de travail, quoi. Donc, je ne sais pas si ce sera des réponses, mais en tout cas, je pense que clairement là, elle va pas vers un contrôle des naissances autoritaire, étatique, comme il y a pu avoir des dérives, et on le sait, de façon assez massive, avec des stérilisations forcées. C'est aussi des choses qu'on va aborder plus tard, mais on pense par exemple à l'excellent bouquin de Françoise Vergès, qui a réfléchi à ces questions, notamment donc quant à ce qui s'est passé en France, hein, quant à la stérilisation forcée de certaines femmes. Parce qu'on considère que ces femmes ne sont pas en mesure de contrôler leur corps et ne savent pas comment contrôler leur corps. Donc là, je crois que ce n'est pas du tout la voie qu'elle prend ici.
Oui, non, complètement. Je ne voulais pas lui imputer ça, mais c'était juste que j'ai pas trouvé forcément de réponse. Je pense que c'est un peu on règle de manière je sais pas comment expliquer, mais ça m'a posé quand même question, qui va contrôler les naissances par la suite, parce que ça peut très vite partir d'une bonne intention, et on sait que parfois on se dit oui, il y a surpopulation, donc on fait moins d'enfants, et après ça arrive vers des dérives extraordinaires comme dans certains pays ou ceux dont tu parles, Lise. Donc voilà, mais hâte de continuer notre discussion.
Tanita avait envie de rebondir sur une autre de tes propositions, mais je lui proposerais bien plutôt de prendre la parole dès maintenant, en fait, d'inverser un petit peu le rapport et de nous expliquer pourquoi, en fait, justement, cette organisation du capitalisme patriarcal, c'est vraiment un moyen de briser les liens entre les femmes. Pourquoi est-ce que cette organisation fait que, en fait, ça empêche les femmes entre elles et toutes les femmes de s'allier finalement pour défendre peut-être des idées, des objectifs, des pensées qui font que ça leur bénéficie, parce que c'est un petit peu ça l'enjeu quand même, quoi. Et pourquoi, au contraire, elles ont plutôt eu tendance jusqu'à présent à s'opposer les unes aux autres, quoi. Donc, Tanita, je sais que tu as réfléchi un peu. Donc,
Oui, c'était encore une fois à travers l'ouvrage de Angela Davis, mais il y a énormément de penseuses qui ont repris cette idée et qui les ont même théorisées avant et après elles. En fait, c'est qu'en fait, le capitalisme, il est par essence un briseur de sororité. Pourquoi ? Parce qu'il va créer une fracture en se basant sur les concepts de classe notamment, et il va se servir de ça à travers le genre. Parce qu'en fait, là, on va donner accès, enfin, vu que le capitalisme est devenu une valeur, c'est un peu ce que t'expliquais aussi, Michaela, avec une norme absolue, c'est devenu aussi un but à atteindre, avoir de l'argent. Et du coup, la femme bourgeoise, ou en tout cas, la femme blanche qui a des prétentions et qui est dans certains milieux qui lui permettent d'accéder à un certain capital, en fait, elle va pouvoir, en tout cas à la sortie de l'esclavage, et puis du coup ça s'est perpétré, c'est presque devenu une tradition, la femme blanche va en fait se liguer contre la femme noire, parce que le capitalisme va lui dire, si tu veux des droits, si tu veux accéder au travail, etc., on ne peut pas le donner à toutes les femmes en fait. C'est pas possible. Donc comme le blanc est supérieur au noir, bien sûr c'est pas ce que je pense, hein, je reprends... la logique un peu historique de ce qui s'est passé, hein, je tiens à préciser, comme le blanc est supérieur au noir et que tu es une femme blanche, eh bien, si toi tu veux accéder, en tant que femme blanche, tu peux, mais les femmes noires n'auront pas accès à ce capital-là. Donc, en fait, les suffragettes de l'époque aux États-Unis, qui étaient des féministes revendiquées, elles ont fait le choix, je pense totalement inconscient, en tout cas c'est Angela Davis essaie de mettre des propos en disant qu'elles n'étaient pas directement racistes, mais que c'est une dynamique du capitalisme qui a provoqué ce racisme-là en fait, et que c'était un racisme un peu ordinaire à l'époque, qui aujourd'hui est complètement considéré comme du racisme, mais elles se sont liguées pour que les femmes noires n'aient pas forcément accès au droit de vote, enfin que les noires n'aient pas forcément accès au droit de vote, pour que les femmes noires, ne l'aient pas non plus, pour que ça reste un privilège des femmes blanches, et que les femmes blanches puissent accéder aux bienfaits du capitalisme.
Et du coup, en fait, c'est un peu l'idée que on se dit on va laisser des gens sur le bord de la route, mais c'est pas grave parce que nous comme ça on aura quand même nos droits. C'est un peu ça.
C'est un peu ça, et c'est vraiment sur ça, d'après Angela Davis, que s'est basé le féminisme contemporain avant les questions du féminisme décolonial, du féminisme intersectionnel. Et donc ça crée des biais cognitifs justement chez les féministes qui vont laisser pour compte, comme tu disais, qui vont laisser sur la route beaucoup de personnes pour elle accéder à quelque chose, mais on peut pas vraiment leur en vouloir, hein, parce que à l'époque il y avait ce besoin-là d'avoir du capital, et puis c'est parce que c'était vraiment un modèle où aussi le capitalisme allait bien à l'époque, et où du coup on vendait vraiment un produit, un modèle économique, voilà, et du coup on est rentré dans le 20e siècle avec un accroissement de la consommation, etc., notamment grâce aux femmes blanches qui possédaient du capital. Et du coup, c'est là où on voit que le capitalisme est quand même très intelligent, parce qu'en fait, il arrive à briser une lutte commune en la divisant. Du coup, la question de la classe et le sentiment de supériorité que donne l'accès à la consommation et donc à l'argent passe devant la question du genre, et ce par le biais de la race. Et donc c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment un triptyque, et la race, elle devient un peu la matrice qui permet pour les blanches d'accéder à ce qui jusque-là est interdit. Enfin bref, on voit que le capitalisme est patriarcal et qui fait croire aux femmes qu'il ne l'est pas, et donc qui brise la sororité. Voilà, et donc il joue un peu sur les luttes.
Alors comment, parce que tu disais que du coup la race, ça devenait la matrice justement qui permettait aux femmes blanches d'accéder à ce qui leur était interdit, ça passe par quoi ? Est-ce que tu aurais un exemple,
exemple ? Alors, j'ai pas les noms en tête, je les ai plus parce que j'ai lu le bouquin il y a un petit moment, mais j'ai la théorie. Donc en fait, on avait les suffragettes qui ont donc milité pour leurs droits, c'était à peu près au même moment d'un gros débat aux États-Unis qui était, est-ce qu'on accorde ou non le droit de vote aux hommes noirs ? Et en fait, c'est les politiques blancs qui se sont un peu, qui étaient pro-capitalistes, qui sont en fait venus s'insérer au sein des associations en disant nous, en fait, qui sont entrés dans la lutte féministe en se présentant comme alliés, en disant que en étant les alliés de ces femmes-là, qu'ils allaient leur donner accès à certains droits, à certains privilèges. Ça s'est fait pas exactement de cette manière. Ils sont pas venus, bonjour, nous allons vous donner. Mais, en fait, il y a eu une convergence des luttes, non pas des luttes des femmes, mais des luttes sur la question de l'argent, en fait, finalement. Et la question du droit de vote qui allait avec à la sortie de l'esclavage, hein, aux États-Unis, c'était très lié. Et donc, en faisant une convergence des luttes sur la question de l'argent, eh ben, on a complètement brisé la lutte qui était la leur au départ, qui était la lutte féministe, parce qu'en fait, on leur a dit, on répond à vos besoins. Vous revendiquez un compte bancaire, de l'argent, des libertés, des droits sexuels, etc. Eh bien, tenez, on vous le donne. Mais dans ces cas-là, pour que ça soit possible, il faut que vous soyez en fait raciste. Donc, c'est un peu le chemin qui s'est lu. Après, je ne vais pas lire le bouquin. Hein. Ça s'étale sur 7 chapitres, je crois, juste ce passage-là où vraiment on a le schéma, comment ça s'est vraiment passé, etc. Mais en fait, c'est des luttes associatives et des convergences des luttes dans le, ça c'est mon opinion, mauvais sens en fait. Mais c'est vraiment une logique de convergence des luttes à la base.
Voilà. Moi, ça me fait penser à un super bouquin que j'avais lu il y a un petit moment, alors qui s'attachait pas trop aux questions de capital et d'argent. Alors, je vais pas trop déborder, mais par contre, beaucoup à cette division justement des luttes des femmes, qui s'appelait les féministes blanches et l'empire, qui est un bouquin de une autrice et un auteur. Stella Magliani Belkacem et puis Félix et Wang Jepe, qui revient justement sur toute l'histoire de la façon dont un petit peu hein, les femmes blanches féministes étaient un peu des chevaux de Troie en fait pour approcher ou introduire certaines idées qui étaient toujours au détriment des personnes racisées, en particulier des femmes racisées. Et du coup, parce qu'elles avaient un rôle qui leur permettait d'être un rôle de pouvoir, de décision, d'accéder justement à des, non pas des privilèges, mais d'accéder à des droits qu'elles réclamaient depuis longtemps, quelques-unes ont un peu joué le jeu, entre guillemets, d'un capitalisme patriarcal ou d'une société patriarcale, sans parfois s'en rendre compte, c'est ce que tu disais. Alors, parfois, en profitant aussi et en s'en rendant compte, hein, faut aussi faire
une
petite lecture un peu critique aussi. Hein, mais je sais que j'avais été passionnée par ce bouquin qui est hyper bien écrit, qui est très très court et qui permet de comprendre que ce qui nous semble assez simple, c'est toujours, il y a 25 couches et 25 niveaux de lecture et que en fait ouais, tout est fait pour qu'il y ait cette division quoi. Mais justement dans les exemples concrets sur cette idée de accéder à ce qui était interdit, il y avait aussi la question du travail en fait, c'est-à-dire que pour que les femmes puissent les femmes blanches notamment puissent accéder au travail et donc finalement accéder peut-être, pourquoi pas, à l'épargne, au capital, au patrimoine, bah, ça implique potentiellement d'utiliser le travail d'autres personnes et notamment des femmes racisées.
Oui, tout à fait. Et en fait, pour que l'idée passe dans un milieu qui était quand même féministe, il fallait en fait créer une espèce de tension hostile un peu envers la femme noire. Et du coup, en fait, en insérant littéralement le racisme dans ces mouvements des suffragettes, en fait, ça a été directement implanté par des hommes blancs. C'était pas un mouvement qui, au départ, en fait, au départ, elle s'était pas vraiment posé la question sur cette condition. On était en même temps que la sortie de l'esclavage. Enfin, il y avait plein de, c'était une société en plein mouvement. On s'était pas vraiment posé la question. Et en fait, on a implanté cette idée un peu raciste, carrément raciste même. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris le livre en le lisant et que j'ai compris le schéma. On a implanté cette idée raciste pour en disant vous allez travailler, mais pour ça, en fait, enfin, une fois qu'en fait les femmes étaient racistes, elles voulaient travailler, mais du coup, elles ne se posaient pas la question des femmes noires, en fait, vu qu'on avait introduit le racisme dans leur lutte. On avait exclu la possibilité qu'elles se posent la question, en fait. C'est plus ça même.
Ouais, en fait, l'angle de vue était biaisé, quoi. C'est vraiment ça. C'est la seule façon pour vous d'accéder à vos droits. C'est de mettre de côté ou d'écraser ou d'utiliser une certaine catégorie de la population, quoi.
C'est exactement. Vraiment...
Ouais. Merci beaucoup les filles pour cette première émission assez passionnante et dense et foisonnante qui en augure d'autres à venir. Je crois qu'on a quand même déjà bien défriché les choses, mais il nous reste encore pas mal de choses à dire parce que je crois que finalement ça nous a assez passionné cette thématique. On tient à remercier bien sûr Radio Moulin qui nous accompagne dans cet enregistrement, dans la prise de son, dans les conseils avisés à chaque fois pour toutes les émissions. Là, on s'est passé deux exceptionnellement parce qu'on était par Zoom, hein, confinement oblige, mais promis juré, les prochaines fois, le son sera meilleur. Merci Agathe pour toutes tes remarques et ta présence pendant cette émission.
Merci à vous, c'était très cool.
Merci Mikhaïla.
Merci, à très bientôt.
Merci Tanita.
Merci à vous, à bientôt.
Et puis merci de nous avoir écoutés, à bientôt.